Alors aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu spécial. On met de côté, disons, la pile d'articles habituels pour se concentrer sur une seule et unique source. Mais quelle source? C'est un bulletin du Cartoclub Aveyronnais, le numéro 69, qui date de mai 2018.
Oui, et il faut peut-être préciser ce que c'est. Le Cartoclub, ce sont des passionnés, des collectionneurs de cartes postales anciennes, et leurs bulletins, c'est leurs espaces de partage. D'ailleurs, il faut vraiment saluer le travail de Guy Mazars, qui est le rédacteur en chef et aussi le concepteur de la maquette. C'est un travail d'orfèvre, vraiment. Chaque page est pensée pour mettre en valeur ces petits trésors de papier.
Exactement. Et au cœur de ce bulletin, il y a un article qui nous a fascinés. Il est signé Jean-Pierre Crume et il s'intitule « Au fil du lot ». L'idée de départ est juste géniale. Et si, pour une fois, ce n'était pas un historien ou un géographe qui nous racontait l'histoire d'une rivière, mais la rivière elle-même?
C'est ça qui change tout. L'auteur donne la parole au lot. C'est la rivière qui se raconte, à la première personne. Elle partage ses souvenirs, ses colères, ses joies. Et toute cette autobiographie fluviale est illustrée par des dizaines de cartes postales d'époque.
C'est ça, notre mission aujourd'hui, c'est donc de suivre ce courant narratif et de voir ce que ces images un peu figées peuvent nous raconter quand on les remet en mouvement. Alors, embarquons. Le voyage commence logiquement à la source, sur la montagne du Goulet, en Lozère. Et tout de suite, l'image qu'on pourrait avoir d'une naissance un peu grandiose est balayée. Le Lot nous décrit son berceau comme, et là je reprends ces mots, un pré marécageux où abondent la gentiane et la framboise.
On est loin de la cascade spectaculaire.
Oui, c'est une naissance très humble pour un cours d'eau de 480 km.
Cette humilité est essentielle, je trouve. En commençant comme ça, l'auteur, à travers la rivière, il crée une connexion immédiate. Ce n'est pas un concept géographique abstrait, c'est presque un être qui naît, fragilement, dans un décor tout simple. La personnification est là dès la première phrase et ça transforme notre regard.
On ne regarde plus une carte, on écoute une confidence.
C'est exactement ça.
Et cette confidence, elle devient très vite mouvementée. À peine née, après quelques kilomètres, la rivière rencontre sa première épreuve voyante, l'industrie humaine. C'est l'usine hydroélectrique de Sainte-Hélène. Le choc est d'une brutalité. Le texte est incroyablement puissant à ce moment-là. La rivière se sent brisée, moulue, en sortant de ce qu'elle appelle la gueule du monstre, c'est-à-dire les turbines de l'usine.
C'est un conflit qui est posé d'emblée. La force naturelle, libre, contre la force mécanique qui la canalise, qui la contraint, ce n'est pas juste une description, c'est un drame qui se joue. Et ce drame, en fait, il va irriguer tout le reste du récit.
Cette tension permanente, oui.
Voilà, entre la nature sauvage du Lot et les tentatives humaines de le domestiquer, de l'exploiter.
Mais juste après cette violence, comme pour nous laisser respirer, l'article nous offre une image magnifique, un instant de grâce. La rivière, encore un peu secouée, elle aperçoit un jeune garçon qui s'amuse dans ses eaux. L'auteur utilise de vieux mots très savoureux, il est en train de gouiller et gabouiller.
Patouger, s'éclabousser.
C'est ça, avec une joie toute simple. C'est une image tellement vivante.
Et la carte postale qui illustre ce passage, le Lot à Sainte-Hélène, elle fige ce moment. Et ce qui est fascinant, c'est que ce petit garçon, ce n'est pas n'importe qui. L'article nous apprend qu'il s'agit du jeune Jean-Antoine Chaptal.
Le futur ministre de Napoléon.
Lui-même.
C'est fou, non? Ce contraste entre la violence des turbines d'un côté et de l'autre l'insouciance d'un futur grand homme de l'État qui patauge dans l'eau.
C'est toute la richesse de cet article. Il mêle la grande et la petite histoire dans le même courant. La rivière est une scène où se jouent tous les aspects de la vie, pas seulement les drames industriels.
Mais aussi les jeux d'enfants, les rêveries. D'ailleurs, en parlant de rêveries, l'article s'arrête longuement sur les ponts. Ils ne sont pas vus comme de simples ouvrages d'art, mais comme des observatoires, des témoins silencieux du temps qui passe. En lisant ça, impossible de ne pas penser au pont Mirabeau d'Apollinaire, vous voyez?
Bien sûr.
C'est cette même idée que le pont est un spectateur immuable de tout ce qui s'écoule, l'eau comme les existences. C'est universel.
Et cette idée, elle se connecte parfaitement à la nature même des cartes postales. Ce sont des instantanées. Elles ont capturé des moments de vie sur ces ponts des gens qui s'y accoudent, qui regardent l'eau. L'article le dit très joliment, les ponts tant vus, tant à dire de la vie qui passe comme la rivière sous leurs arches.
Les cartes deviennent les archives visuelles de ses contemplations, en fait.
C'est ça.
Et parmi ses vies, il y a des personnages qui semblent tout droit sortis d'un roman aisant. L'anecdote du meunier volant de Banassac est absolument incroyable. On est en 1909, un meunier, sans doute un peu inventeur, un peu poète, se fabrique des ailes, grimpe sur un promontoire de 60 mètres au-dessus du Lot, et il se jette dans le vide.
On s'attend au pire, évidemment.
Eh bien non, il s'en sort avec une seule jambe cassée. Et sa réaction, rapportée par un journal de l'époque, est un chef-d'œuvre. Il aurait simplement dit « Pardienne, j'avais oublié la queue ».
C'est magnifique. Cette histoire est un trésor. Ce n'est pas la grande histoire qu'on trouve dans les manuels. Mais c'est peut-être encore plus précieux. Ça nous en dit tellement sur l'état d'esprit de l'époque. Cette audace, ce mélange de génie et d'inconscience, cet humour face à l'échec. C'est ce genre de micro-récit qui donne toute sa saveur à l'histoire locale.
C'est une histoire folle. Mais au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que ça nous apprend sur les gens de l'époque? On prenait des risques insensés comme ça.
Je pense que ça révèle une familiarité avec le risque et peut-être une foi dans le progrès, dans l'expérimentation, qui était très forte au début du XXe siècle. L'aviation en était assez balbutiement, ça devait faire rêver tout le monde. Cet homme, c'est un pionnier à sa manière, même si son expérience est un échec cuisant, quoi.
Et ces histoires de personnages hauts en couleur, c'est fascinant. Mais la rivière n'était pas qu'un décor pour des exploits. C'était le moteur économique de toute la Géant, n'est-ce pas?
Absolument. On l'oublie souvent aujourd'hui, mais avant les routes, avant le chemin de fer, les rivières étaient les principales voies de communication et de commerce. Le Lot était une artère vitale.
L'article le démontre très bien. On apprend par exemple qu'à Entraigues, dès 1552, le fleuve était le moyen de transporter vin, blé, futage, fromage, jusqu'à Cahors et même Bordeaux.
C'était l'autoroute de la Renaissance.
C'est ça. Et les cartes postales de l'époque industrielle nous montrent des quais très animés, comme à Port d'Agresse, où l'on chargeait de la barite, un minerai, sur des bateaux à fond plat. On voit le travail, la sueur.
Ces cartes postales, ce sont de véritables documents socio-économiques. Elles nous montrent une économie fluviale qui a aujourd'hui complètement disparu. Quand on voit une carte du quai d'Entraigues avec son architecture, on ne voit plus juste un joli village. On comprend que c'était un port, un lieu de négoce. L'image prend une toute autre profondeur.
Mais cette autoroute était aussi pleine de pièges. L'article évoque le moulin de Marcenac et son « passe lisse », une sorte de passage très étroit dans le barrage pour les bateaux. Ce goulet d'étranglement a été la cause de nombreux naufrages, de morts.
C'était une navigation dangereuse. Ça demandait une connaissance parfaite du courant, des obstacles. Les bateliers du Lot, les gabariers, étaient des professionnels extrêmement qualifiés et respectés.
Et ce que je trouve génial, c'est que la rivière, dans le texte, elle se défend. Hein. Face à ces drames, elle plaide non coupable. En gros, elle dit « je récuse toute responsabilité, ce n'est pas ma faute, c'est celle des maçons qui ont mal conçu le barrage ».
C'est très humain comme réaction.
N'est-ce pas?
Cette personnification permet vraiment de rendre le récit vivant. La rivière a du caractère, elle n'est pas passive, elle a ses alliés, ses ennemis, elle accuse, elle se justifie. C'est un personnage.
Évidemment, le progrès technique va finir par changer la donne. L'article mentionne la construction du premier pont suspendu de l'Aveyron à Livignac-le-Haut. Une prouesse pour l'époque qui va faciliter le transport terrestre et qui symbolise l'entrée dans une nouvelle ère.
C'est un tournant. Le pont enjambe la rivière, il la domine. Symboliquement, l'homme ne suit plus le cours de l'eau, il le traverse. La dynamique change.
Ce thème de la traversée est vraiment central. D'ailleurs, l'article nous offre deux scènes de passage en bac qui sont comme les deux faces d'une même société. La première est très formelle, presque théâtrale.
Racontez-nous ça.
C'est l'histoire d'un jeune seigneur, Gaillard de Castelnau, qui arrive en bac. Il invoque alors un privilège ancestral de sa famille qui lui donne le droit de traverser gratuitement. Le passeur, évidemment, n'est pas ravi. Finalement, le trésorier du seigneur pèle à traverser, mais, et c'est là que ça devient savoureux, il fait venir un notaire pour acter que ce paiement est exceptionnel et que, une fois n'est pas coutume.
C'est extraordinaire. Le fait qu'on fasse venir un notaire pour un passage en bac, ça en dit long sur la complexité des relations sociales. Ce n'est pas juste une transaction, c'est une affirmation de statut, une négociation de privilèges héritée du fond des âges. Le droit féodal n'est pas une abstraction, il s'incarne là, dans la vie quotidienne.
Et juste après ce moment ultra protocolaire, l'article nous fait faire un grand écart. On passe à une scène beaucoup plus bucolique. C'est la traversée des chèvres près de Saint-Parthélemy.
Moins de notaires, j'imagine.
Beaucoup moins. On nous décrit les chèvres qui embarquent sur le bac sans se faire prier. Elles connaissent la manœuvre, par cœur. Et pourquoi traversent-elles? Pour aller brouter sur l'autre rive, une herbe qui est, nous dit le texte, moins abondante, mais tellement plus parfumée.
Ah.
Et le but ultime de cette transhumance quotidienne, c'est de produire de meilleurs fromages qu'Abécou.
La juxtaposition est brillante. D'un côté, une question de droit, de lignage, qui remonte au Moyen Âge. De l'autre, une logique purement pastorale et gastronomique. Ça montre à quel point la rivière est un théâtre où se croisent absolument toutes les strates de la société, des plus nobles ou plus terre-à-terre, quoi. La grande histoire des privilèges et la petite histoire du fromage.
Puis, le voyage arrive vers sa fin, du moins dans le département de l'Aveyron, et là, le ton de la rivière change radicalement. La joie et la vitalité laissent place à une profonde mélancolie.
C'est le chant du cygne, en quelque sorte.
Oui, et c'est incarné par un lieu précis, le tunnel de Montbrun. C'est un endroit que la rivière chérissait, un passage naturel creusé dans la roche, qu'elle décrit comme un lieu de spectacle et liberté. Il y a un dessin de Simone Estébé, de 1976, qui est reproduit dans l'article et qui nous montre ce lieu juste avant le drame. C'est la dernière photo avant la disparition.
Et que se passe-t-il?
L'hydraulique. La modernité. Une mini-centrale est construite, le tunnel est bétonné, la rivière est mise en cage. La description qu'en fait le Lot est un véritable cri du cœur. Je reprends ces mots. Là où j'avais spectacle et liberté, il ne me reste plus que prison, silence et inertie. L'hydraulique m'a paralysé à jamais.
C'est d'une tristesse. C'est presque une oraison funèbre. L'article devient militant à ce moment-là, non?
Complètement. D'autant que l'auteur, Jean-Pierre Krum, enfonce le clou en citant un titre du journal Midi Libre de 1978. Le journal rapporte que cette mini-centrale a été construite sans permis de construire. La blessure est double. Non seulement le paysage est détruit, mais il l'a été dans l'illégalité.
C'est là que la démarche dépasse la simple collection de cartes postales. À travers la voix du Lot, l'article devient un plaidoyer puissant pour la mémoire des paysages. Il met en lumière ce conflit, souvent brutal, entre la préservation du patrimoine et les impératifs du progrès industriel. En donnant une voix à la victime, la rivière, l'auteur donne une force émotionnelle immense à ce débat.
Quand on referme l'article, on a l'impression d'avoir fait un voyage incroyable. On a suivi le courant, bien sûr, mais on a surtout navigué à travers le temps, l'économie, les légendes et les drames silencieux de toute une région.
Ce qui est génial dans la broche de Jean-Pierre Krum, c'est qu'il a complètement inversé le processus habituel. Normalement, on écrit un texte et on cherche des images pour l'illustrer. Lui, il a fait le contraire. La matière première, ce sont les cartes postales. Chaque carte est un chapitre, un souvenir, un indice. Et en les reliant, il a tissé la biographie de la rivière. Il a transformé des images statiques en une narration incroyablement vivante et fluide.
C'est une véritable résurrection. Il a fait parler ses fantômes de carton.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le voyage s'arrête net à la sortie du département de l'Aveyron. L'histoire n'est pas finie, la rivière continue sa course. Cette fin ouverte, c'est presque une invitation à continuer l'exploration, à se demander ce que le Lot devient après. Et ça nous amène à une question plus large, je trouve.
Oui, tout à fait. Si d'autres éléments de notre paysage, des éléments qu'on côtoie tous les jours sans même plus les voir, une montagne, une vieille route, une forêt, si ces lieux pouvaient, comme le Lot Jean-Pierre Krum, nous raconter leur propre histoire. Quelles mémoires inattendues, quels récits oubliés ou surprenants nous révéleraient-ils sur notre propre passé et peut-être même sur nous-mêmes ?